En temps universel. Retrouvez-nous aussi sur Internet, Facebook et sur votre portable. Vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Bonsoir à tous. Le Monde aujourd'hui, édition du 4 novembre 2014.
Morgane Guiriec et Chérubin Dorcil à Washington.
Les grands points de l'actualité. Au Burkina Faso, on attend toujours que les militaires rendent le pouvoir aux civils. Et les concertations se poursuivent sur le choix d'une personnalité consensuelle pour diriger la transition.
En même temps, on se pose la question, quel avenir pour le CDP, le parti de Blaise Compaoré?
Le peuple est en colère, mais les gens pardonnent vite. Blaise est parti. Le CDP se retrouvera en face des autres forces politiques. Blaise n'a qu'à désigner un candidat qui va briguer le pouvoir avec les autres partis.
L'analyse d'Amidou Idogo, directeur de publication du journal Les Échos à Ouaga.
En République centrafricaine, le chef d'une faction des ex-Seleka rejette toute idée de partition du pays.
Ça veut dire qu'il y a un État, un gouvernement parallèle. Et donc, ça cache mal la volonté de partition de la République centrafricaine.
On écoutera Mohamed Moussa Dafane, deuxième vice-président, sur une mesure prise récemment par des ex-Seleka dans le nord du pays.
Élection de mi-mandat aujourd'hui aux États-Unis, les Républicains espèrent prendre le contrôle des deux chambres du Congrès.
Et nous aurons les sports et la musique en fin d'émission, mais d'abord, le journal.
Au Burkina Faso, l'homme fort de la transition continue ses consultations à Ouagadougou. Le lieutenant-colonel Zida est soumis à une forte pression internationale. Et ce matin, il a promis de remettre le pouvoir aux civils. Bagassikoura nous en dit plus.
C'est au roi des Mossi, le plus influent chef traditionnel du pays, que le lieutenant-colonel Zida a confié qu'il comptait bien remettre la direction de la transition à une personnalité civile. Sous la menace de sanctions internationales, l'homme multiplie les consultations. Il devait rencontrer aujourd'hui le président du Conseil constitutionnel. Ce dernier ne s'est pas exprimé depuis le début de la crise. Le lieutenant-colonel Zida a rendu visite aux blessés des récentes manifestations dans les hôpitaux de Ouagadougou, promettant de changer le nom de l'hôpital Blaise Compaoré pour en faire l'hôpital Aman Arba Diallo, du nom d'un leader de l'opposition décédé en septembre. Dans l'après-midi aussi, le lieutenant-colonel Zida devait recevoir les chefs d'entreprise et des responsables des syndicats. Un sommet de la CDAO doit se tenir jeudi et vendredi au Ghana pour examiner la situation au Burkina Faso. Déjà sur place, le représentant spécial du secrétaire général des Nations Unies pour l'Afrique de l'Ouest, Mohamed Ibn Chambas, le médiateur de l'Union africaine, Edem Kodjo, le représentant de la commission de la CDAO, Kadré Désiré Ouédraogo, mènent les consultations.
Nouvelle attaque dans le nord-est du Nigeria à Nafada, dans l'état de Gombe. Plusieurs bâtiments, dont le commissariat de police, ont été détruits selon des témoins. Les assaillants, des membres présumés de Boko Haram, ont d'abord affronté des soldats stationnés à un poste de contrôle avant de pénétrer dans le centre-ville, indique l'AFP. Ils sont arrivés en grand nombre à bord de camionnettes et sur des motos. Ils criaient « Allahu Akbar », a rapporté un habitant de Nafada, cité par l'agence France Presse. Aucun bilan n'a pu être établi de sources indépendantes.
Le président intérimaire de la Zambie, Guy Scott, est revenu sur sa décision de démettre le ministre de la Défense, Edgar Lungu, du poste de secrétaire général du parti au pouvoir. La destitution d'Edgar Lungu, probable candidat à la succession du président Sata, décédé la semaine dernière, a provoqué la colère de certains militants qui ont pris la rue. Jean-Roger Billon.
Les rues de Lusaka ont été le théâtre de violentes manifestations des jeunes du Front patriotique, le parti au pouvoir perturbant même l'hommage rendu depuis dimanche au président Michael Sata. Le président Guy Scott est revenu sur le limogeage d'Edgar Lungu ce mardi avec une annonce à la radio nationale, mais n'a pas donné les raisons de sa volte-face. Guy Scott, citoyen zambien blanc, assure l'intérim de la présidence depuis le décès de Michael Sata le 28 octobre dernier à Londres. Un scrutin présidentiel est en vue en janvier pour sa succession. Guy Scott ne peut pas se présenter à la présidentielle. Selon la Constitution, ses parents étant nés en Écosse. Edgar Lungu, quant à lui, est considéré dans le pays comme le probable successeur du président Sata. De nombreux Zambiens voient en lui la personne la plus susceptible de gagner les élections présidentielles.
Dans l'est de la République démocratique du Congo, la situation demeure chaotique dans le territoire de Kalehe, frappé fin octobre par des pluies diluviennes. Le bilan reste très incertain, mais hier, les autorités comptaient 6 morts et 134 disparus.
Visite du président du Soudan du Sud à Khartoum, la capitale du Soudan. Salva Kiir s'est entretenu avec son homologue soudanais, Omar el-Béchir. Les deux chefs d'État ont décidé de reprendre les discussions pour démarquer leurs frontières contestées. Un problème qui avait dégénéré, souvenez-vous, en conflit armé en 2012. Ils ont aussi promis de cesser de soutenir les groupes rebelles sévissant dans leurs pays respectifs, indiquent les autorités soudanaises. Salva Kiir devait quitter Khartoum ce soir, mais l'ambassadeur soudanais à Djouba a affirmé qu'il passerait une nuit supplémentaire dans la capitale soudanaise en raison de problèmes techniques de son avion.
Du côté de la Méditerranée, 8 passeurs égyptiens ont été arrêtés lundi dans un port de Sicile lors de l'arrivée d'un bateau. Il transportait 321 immigrants clandestins, en grande partie des Syriens, d'après les médias italiens.
Washington, la voix de l'Amérique, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Sécurité renforcée en Irak à l'occasion de la grande commémoration de l'Ashura. Les forces irakiennes étaient en état d'alerte ce mardi pour tenter d'empêcher des attentats de l'État islamique contre les nombreux pèlerins chiites qui ont afflué à Karbala. Jacques Aristide.
Le groupe djihadiste sunnite a revendiqué déjà de nombreux attentats contre des membres de la communauté chiite majoritaire dans la population irakienne. Les voitures n'ont pas été autorisées à entrer dans Karbala ce mardi pour parer au risque d'attentat à la voiture piégée. La menace est d'autant plus grande cette année en raison des gains territoriaux enregistrés par l'organisation terroriste dans le nord et l'ouest de l'Irak. Elle considère les chiites comme des infidèles qui méritent d'être tués. Lors de l'Ashura, les chiites commémorent la mort de l'imam Hussein, petit-fils du prophète Mahomet, à la bataille de Karbala. Par le passé, cette même commémoration a été la cible d'attaques sanglantes perpétrées par Al-Qaïda.
Toujours à l'occasion de l'Ashura, des dizaines de milliers de partisans de la très puissante milice chiite libanaise Hezbollah se sont rassemblés au milieu d'un dispositif de sécurité renforcé dans la banlieue de Beyrouth, la capitale du Liban. S'exprimant sur un écran géant, Hassan Nasrallah, le très influent chef du Hezbollah, a promis la défaite des djihadistes en Syrie, où ces hommes se battent depuis 2013, aux côtés des forces du président Bachar al-Assad. Les précisions de Michel Joseph.
Selon l'AFP, M. Nasrallah a déclaré « Nous les vaincrons dans toutes les régions, dans tous les pays. Ces extrémistes n'ont pas d'avenir. » Il a ajouté que la région n'allait pas tomber aux mains des coupeurs de tête et ravisseurs de femmes. Hassan Nasrallah faisait allusion ici aux décapitations et aux enlèvements de femmes pour les réduire à l'esclavage, tels que revendiqués par le groupe État islamique. L'engagement du Hezbollah en Syrie, rappelle l'AFP, a exacerbé les tensions confessionnelles entre sunnites et chiites. Et des groupuscules sunnites opposés à un tel engagement ont revendiqué des attentats ayant frappé des fiefs de la milice chiite qui jouit du soutien de nombreux participants à la commémoration de l'Ashura. Par exemple, un certain Abdelkarim Mansour a déclaré à l'AFP « Avant, on unissait l'Amérique et Israël. Aujourd'hui, il y a un nouvel ennemi qui est tout aussi dangereux, si ce n'est plus ». Les djihadistes sunnites qualifient les chiites d'hérétiques.
Le Parlement français a définitivement adopté mardi une loi de lutte contre le terrorisme qui instaure notamment une interdiction de sortie du territoire des personnes suspectes. C'est afin d'entraver les départs de Français candidats au djihad en Syrie. La loi permet aussi de prononcer une interdiction administrative d'entrée sur le territoire à l'encontre d'un ressortissant d'un pays membre de l'Union européenne ou de tout membre de sa famille lorsque sa présence en France constituerait une menace réelle, actuelle et suffisamment grave pour un intérêt fondamental de la société. La nouvelle loi n'a pas été votée par les écologistes et l'extrême gauche. Elle a été critiquée par des associations de défense des droits de l'homme.
Au Pakistan, 2 attentats à la bombe ont fait au moins 4 morts à Khyber, 2 militaires et 2 civils, dans la région tribale du Nord-Ouest. Aucun groupe n'en a revendiqué la responsabilité. Des milliers de personnes ont fui Khyber depuis le début d'une opération de l'armée pakistanaise le mois dernier. L'armée fait la chasse aux islamistes dans le Waziristan depuis juin et, selon les militaires, l'offensive a déjà fait plus de 1100 morts parmi les extrémistes.
Israël a annoncé la réouverture des passages d'Eretz et Kerem Shalom sur la frontière avec Gaza. Ils avaient été fermés dimanche après un tir de roquettes palestiniens. Cette attaque n'avait pas fait de victimes ou des dégâts matériels. Les deux parties observent un cessez-le-feu depuis le 26 août suite à un conflit de 50 jours qui a fait plus de 2000 morts.
Un chef rebelle pro-russe a prêté serment aujourd'hui comme président de la République autoproclamée de Donetsk dans l'est de l'Ukraine. Alexander Jakharchenko, âgé de 38 ans, a remporté le scrutin du dimanche, rejeté par Kiev et ses alliés, mais salué par la Russie. La réaction de Moscou risque d'envenimer davantage ses relations avec les pays occidentaux.
Pyongyang dit non à toute négociation avec Washington sur son programme nucléaire ou la situation des droits humains en Corée du Nord. Les autorités nord-coréennes évoquent comme raison ce qu'elles appellent les tentatives de Washington de renverser le gouvernement communiste de leur pays.
6 ans après l'arrivée de Barack Obama à la Maison-Blanche, les Américains votent dans des élections de mi-mandat qui pourraient donner aux Républicains une majorité au Congrès. Idriss Fall.
Il s'agit de renouveler les 435 sièges de la Chambre des représentants, 36 sièges sur les 100 que compte le Sénat, les gouverneurs de 36 des 50 États américains et une partie des élus locaux. La soirée électorale s'annonce très longue. Les sondages restent serrés mais donnent un léger avantage aux Républicains. Ils veulent conquérir les 6 sièges qui leur manquent pour contrôler le Sénat et sont bien placés en Virginie de l'Ouest, au Dakota du Sud, Montana, Iowa, Arkansas, Colorado et en Alaska. Le républicain Mitch Michel, sénateur sortant du Kentucky, est plus que confiant. Il y a un parfum de victoire en l'air et nous allons la ramener à la maison. La basse-cote de popularité de Barack Obama ne joue pas non plus en faveur des démocrates. Ni la baisse du chômage, ni la robuste croissance ne sont mises au crédit du président américain. Obamacare, la réforme qui a permis à des millions d'Américains d'avoir une couverture maladie, reste la cible favorite du parti républicain. La crise en Syrie et l'émoi suscité par le virus Ebola n'ont fait que renforcer la perception d'un manque de leadership à la Maison-Blanche.
Voilà pour le journal. Il est 18h42 en temps universel, 13h42 ici à Washington. Chez Robin Dorcy et Morgane Guériac en votre compagnie. Restez branchés pour nos dossiers du jour. Réaction sur la chute de Blaise Compaoré au Burkina Faso.
Idriss Fall a joint Odile Sankara, la sœur de Thomas Sankara. C'est l'un des rares membres de la famille à rester à Ouagadougou après l'assassinat du capitaine révolutionnaire. On écoute Odile Sankara.
On attendait ça depuis longtemps et ça a même trop duré. Personnellement, pour moi, pour la famille, c'était un joie immense. En plus, on ne voulait pas qu'il sorte à la grande porte. Et là, qu'il fuit, tout n'est pas fini parce que la grande satisfaction pour nous serait maintenant qu'il soit présenté devant les juridictions pour répondre à ce qui s'est passé réellement le 15 octobre 1996.
Qu'il réponde du meurtre de Thomas Sankara.
Il faut qu'il réponde du meurtre parce qu'il était l'acteur principal, sinon le bourreau.
En dehors de Thomas Sankara, il y avait aussi 12 autres officiers.
Il y a 12 autres, effectivement. À chaque fois qu'on célèbre le 15 octobre, des voix s'élèvent aussi. Il y a le dossier de Thomas qui a été porté jusqu'à l'ONU après épuisement sur place au Burkina des instances juridiques. Maintenant, ce serait bien que les langues se délient. Il y a encore des acteurs vivants. Quelqu'un puisse reprendre l'ensemble des dossiers avec les 12 autres dans un dossier unique. Ce serait l'idéal.
A-t-on jamais pu, 27 ans après, identifier la vraie tombe de Thomas Sankara?
Du tout. Nous ressentons au plus profond de nous-mêmes, dans notre chair, que Thomas ne gît pas dans cette soi-disant tombe. Ça reste l'endroit de pèlerinage. Mais pour nous, il n'y est pas. La preuve est que les deux parents sont morts. Ils n'ont jamais mis les pieds là-bas. Ils n'ont jamais vu le corps, bien sûr. Ils ne sont jamais allés là-bas. Les avocats à l'ONU ça faisait partie des 5 points. Un des points, c'était de montrer officiellement la tombe à la famille.
Est-ce que vous pensez qu'Alassane Ouattara, qui doit beaucoup à Blaise Compaoré, est-ce que vous pensez qu'il finira par peut-être le livrer?
On espère bien qu'il va le livrer, parce qu'il n'y a pas que Thomas, hein. il y a beaucoup de crimes, Ils ont beaucoup tué.
Norbert Zongo, Lingani et tous.
Examen brûlé, calciné, Lingani, Zongo, Henri, Dabo Boukari. Il y a plein, la liste est longue. La liste est longue. On n'a pas pu comptabiliser le total des morts au palais le jeudi 30. Et tout ça, à la salle, la pression sera forte. À un moment donné, il sera obligé de le livrer, dans tous les cas.
Odile Sankara, sœur de Thomas Sankara.
Et cette déclaration qui n'est pas passée inaperçue, Morgane, sous la signature de Assimi Kouanda, son secrétaire exécutif, le CDP, le parti de Blaise Compaoré, rompt le silence. En ces moments difficiles, écrit l'ancien parti au pouvoir au Burkina Faso, la majorité a une pensée émue pour toutes les personnes affectées de près ou de loin par les manifestations des jeudi 30 et vendredi 31 octobre dernier. Le parti de Blaise Compaoré salue avec compassion et déférence la mémoire des disparus et souhaite un prompt et total rétablissement aux blessés.
Comment ce message a-t-il été accueilli au Burkina Faso ? Bagassi Koura a joint le journaliste Amidou Idoigo du journal en ligne Les Échos.
On est heureux de savoir qu'ils sont là, puisqu'on ne sait pas qui est où. Mais bon, le peuple est en colère, mais il faut comprendre qu'ici aussi, aussi paradoxal que cela puisse l'être, hein, les gens pardonnent vite. En fait, le problème, c'était le départ de Blaise. Blaise est parti aujourd'hui. Le CDP se retrouvera en face des autres forces politiques. Est-ce que les partis ont demandé? Blaise n'a qu'à désigner un candidat du CDP qui va, qui va briguer le pouvoir avec les autres partis. C'est ce que les autres ont demandé. Donc je me dis qu'il n'y a pas de problème. Si le CDP aujourd'hui fait amende honorable, il peut être aussi pris en compte dans le dialogue inclusif.
Alors, on sait qu'en début d'année, le CDP avait perdu un certain nombre de ses dirigeants, notamment Salif Diallo, Simon Compaoré et Rochmar Christian Kabore. Et avec ces événements de ces derniers jours, quel avenir vous voyez pour le CDP? Est-ce que le parti pourra se relever?
Justement, ce sera le test comme ça, puisque on ne savait pas exactement que pesait encore le CDP. Je crois que ça, c'est l'occasion pour tout le monde, pour le CDP lui-même, de tester sa popularité, de voir encore de ce grand parti, mais bon, jadis, ce qui reste. Ça, en tout cas, ça permet à chacun de mesurer le poids aujourd'hui de l'ancien mastodonte.
Et il faudra aussi du courage à beaucoup de gens pour revenir animer la vie politique. Hein. Je pense à Assimi Kouanda ou à François Compaoré, qui était quand même le leader de ce parti.
Ben, je ne crois même pas, parce que François, lui, il serait au Bénin là-bas. C'est pas évident que François, lui, puisse revenir. Assimi Kouanda, nous ne savons pas où il est, mais dans ces conditions, vraiment, je me demande s'il aura encore le courage de faire de la politique. Je crois même pas que ce soit seulement les Burkinabés, pas les opposants, ceux qui voulaient pas de la modification de l'article 37 qui lui en veut, même peut-être au sein de son parti, il y a des gens qui peuvent lui en vouloir d'avoir conduit le pays à ce chaos. Donc je dirais même plus si lui-même il aura envie de refaire de la politique.
La Voix de l'Amérique vous donne la parole sur la crise au Burkina Faso. Exprimez-vous à 19h, temps universel, en direct dans notre émission débat. Nous attendons vos appels au 001 202 619 31 40 pour réagir et donner votre avis sur cet événement qui bouleverse le continent africain. Le Burkina Faso à la croisée des chemins, parlons-en ce soir sur La Voix de l'Amérique.
5 novembre 2013, 5 novembre 2014, 12 mois se sont écoulés depuis la victoire des FRDC sur les rebelles du M23.
Il faut dire que parmi les entités récupérées au M23, le territoire de Nyiragongo, l'un des bastions de ce mouvement rebelle, une année après, la vie a repris sur place, les écoles ont rouvert et les agriculteurs ont retrouvé leurs champs. Reportage sur place de Jonathan Kombi de Top Congo FM, notre station partenaire à Kinshasa.
Au marché central de Kibumba, localité située à une vingtaine de kilomètres de Goma. Les échanges commerciaux se passent dans toute quiétude. À quelques mètres du marché, une maman sarcle son champ de légumes. Elle espère gagner plus de 50 dollars américains d'ici 2 mois quand son petit lopin de terre produira des choux.
50 dollars.
Non, loin de cette dame, les cours se donnent normalement à l'Institut Kibumba. Le préfet de cette institution confirme que l'heure est à la réparation des dégâts causés par l'ex-rébellion du M23. Bizimana Henri.
Pendant la Yemouvetrolo, on était ici, on avait beaucoup perdu. Surtout des moïs, aux pieds aussi, ni les pupitres, on avait brûlé sans les documents, les matériels didactiques, tout console. J'avais 367 élèves, mais pour aujourd'hui, j'ai 500 et plus élèves.
Donc il n'y a plus d'insécurité.
Il n'y a pas d'insécurité ici.
Augustin Malipo, agent de développement local dans les territoires de Niragongo, précise que les habitants du coin se livrent aux activités agro-pastorales pour leur survie.
Juste après que les forces royalistes aient eu de succès envers les M23, la population de Niragongo s'était déplacée vers Kanyaruchinya, Mugunga et partout ailleurs. Mais actuellement, maintenant, la population est revenue. Elle est en train de vaquer librement leurs occupations. Les champs sont cultivés, les enfants sont à l'école. Les marchés sont opérationnels pour vous dire que le bilan est vraiment positif. Sauf imprévu. Ouais.
L'administration locale, elle, a du pain sur la planche. Béon Moutoumaï, administrateur radio, poursuit avec la campagne d'installation des chefs légaux dans des groupements.
Ils assurent bien la sécurité.
Les éléments de l'ordre, les FARDC, la police fonctionnent?
Oui, oui. Tous les bureaux sont fonctionnels. Comprenez qu'après la guerre, certainement, il doit y avoir beaucoup de pertes. Tous les bureaux ont été saccagés, mais nous sommes en train de reconstituer les archives. Et nous sommes à la phase d'installation de certains chefs, de mise en ordre des chefs de groupement. Tous les chefs de groupement vont être rétablis dans leurs fonctions.
Le territoire de Niragongo demeure cependant une entité sans eau salubre. Les habitants, les uns, se contentent des eaux de pluie, d'autres encore. Sera vital au Rwanda voisin. Goma, Jonathan Kombi de Top Congo FM pour la Voix de l'Amérique.
Jacques Aristide avec vous dans Washington Forum. Ce jeudi, plein feu sur les élections de mi-mandat aux États-Unis, sans oublier bien évidemment un suivi de la situation au Burkina Faso. Vos commentaires sur la page Facebook de la Voix de l'Amérique. Rendez-vous ce jeudi à 19h TU sur la VOA.
Le Monde aujourd'hui sur la Voix de l'Amérique.
En République centrafricaine, les ex-rebelles Séléka disent qu'ils vont mettre en place une agence de recouvrement d'impôts dans le nord du pays. Cette annonce intervient après une assemblée générale de 2 jours au cours de laquelle l'ex-Séléka a créé 2 nouvelles branches politiques et militaires et nommé 3 envoyés pour les représenter devant la communauté internationale.
Ces mesures considérées comme des étapes vers la partition du pays sont catégoriquement rejetées par le leader d'une des 3 factions des ex-Séléka, le 2e vice-président de l'organisation, Mohamed Moussa Dafane.
Je pense que l'ex-coalition Séléka est prise en otage. Je pense que les ex-combattants de l'ex-coalition Séléka qui sont dans les provinces n'ont pas encore compris le mobile. Parce que si aujourd'hui on parle de stat, ça veut dire qu'il y a un État, un gouvernement parallèle. Et donc ça cache mal la volonté de partition de la République centrafricaine. Ce contre quoi je m'oppose vigoureusement.
Est-ce que vous êtes encore le vice-président des ex-Séléka?
Est-ce qu'il y a eu une assemblée générale comme celle qui a eu lieu à Birao pour me destituer? Non. Je continue d'officier comme 2e vice-président de l'expédition Séléka jusqu'à ce qu'une assemblée générale soit organisée, que je sois destitué.
Cette mesure de collection d'impôts dans le nord du pays, ce qui laisse présager d'une certaine partition, comme vous l'avez dit, qui est-ce qui est derrière tout ça?
Je sais qu'il y a un certain nombre d'anciens cadres de l'ex-coalition Séléka, c'est-à-dire les membres du bureau qui a été mis en place à Birao. Voilà, ils sont derrière tout ça là et puis voilà, ils cherchent à partitionner le pays.
Quelles seraient les conséquences d'une telle mesure?
Les conséquences, c'est que nous opposerons donc aux forces internationales. Et je sais que les forces internationales en République centrafricaine ont un mandat assez large. Il faut que les ex-combattants comprennent. Ils sont des anciens combattants et ils sont les enfants de ce pays, c'est des centrafricains. Aujourd'hui, la solution de la crise centrafricaine n'est plus militaire. La solution est politique. Nous avons souscrit à l'accord de cessation des hostilités de Brazzaville. Nous devons respecter, soutenir la transition politique comme le veut la communauté internationale pour favoriser le retour des réfugiés, pour
élections libres, crédibles, démocratiques et transparentes.
Votre voix sera-t-elle entendue au sein du mouvement?
Je pense que oui, ma voix sera entendue. Je suis soutenu par des officiers généraux, je suis soutenu par une frange importante des anciens combattants.
Avez-vous été en contact avec ceux qui veulent mettre cette mesure en application dans le nord du pays?
C'est moi qui ai coupé toute relation avec des gens qui n'ont d'autre visée que leur propre personne. J'ai coupé toute relation avec ces gens-là. Je ne veux pas me salir.
Et quand on parle d'ex-Séléka, il faudrait donc désormais préciser de quelle faction il s'agit.
Au départ, il y a eu trois tendances. Il y avait le président Michel, l'ancien président Michel Dekoudia, le premier vice-président Nureddin Adam, le deuxième vice-président moi-même. Aujourd'hui, nous avons un troisième vice-président qui est le ministre Saïd.
Et de toutes ces tendances, seule la vôtre est contre toute partition?
La mienne est celle du ministre Taïb. Fort heureusement, le général Ali Daraz s'est inscrit durablement dans l'option de respecter l'accord de cessation des hostilités de Brazzaville, donc contre la partition.
Mohamed Moussa Dafan, joué à Bangui. Nicolas Pinault, lui, est à Washington et même en studio. Salut Nicolas.
Bonsoir.
Quatrième journée de la Ligue des Champions.
Et oui, en football européen, le Zénith Saint-Pétersbourg a été battu 2-0 par le Bayer Leverkusen. Et dans quelques minutes maintenant, Malmö contre l'Atlético Madrid, Juventus de Turin Olympiakos, le FC Bâle face au Ludogorets et Real de Madrid-Liverpool. Alors la grande question, cher Rubin, est-ce que Cristiano Ronaldo va battre le record du nombre de buts inscrits en Ligue des Champions? Actuellement, le Portugais n'est qu'à un but du record détenu par l'Espagnol Raúl avec 71 buts. Les trois autres rencontres, Benfica Lisbonne, l'AS Monaco, Arsenal contre Anderlecht et le Borussia Dortmund contre Galatasaray.
Demain, d'autres rencontres, Nicolas, et le PSG ne pourra pas compter sur sa star.
L'entraîneur du Paris Saint-Germain, Laurent Blanc, a confirmé que son attaquant Zlatan Ibrahimovic ne serait pas disponible mercredi pour le match contre l'Apoel Nicosie.
Le racisme, pas que dans les stades de foot, mais aussi sur les réseaux sociaux.
La réouverture du compte Twitter de Yaya Touré a été suivie de messages racistes visant le milieu ivoirien de Manchester City. Selon l'association contre la discrimination Kick It Out, qui a annoncé avoir demandé à la police l'ouverture d'une enquête, selon nos confrères de la BBC, la police de Manchester a indiqué qu'elle était informée de l'existence de ce message. On se rappelle que le milieu de 31 ans avait temporairement fermé son compte Twitter, c'était il y a 5 mois, pour se concentrer sur la Coupe du Monde.
Parlons de basket. Plus précisément de la NBA, résultat de la nuit dernière.
Houston et Memphis ont poursuivi leur surprenant début de saison avec une quatrième victoire de suite, respectivement à Philadelphie, 104-93 et face à la Nouvelle-Orléans, 93-81. Oklahoma City sans Kevin Durant et Russell Westbrook, blessé, a encore perdu face à Brooklyn, 116-85. Le Thunder, finaliste de la Conférence Ouest la saison dernière, n'a gagné qu'un match en quatre sorties. Les autres résultats, Dallas-Boston, 118-113. Sacramento qui vient s'imposer à Denver, 110-105, et puis les Clippers de Los Angeles qui dominent Utah 107-101.
Merci Nicolas Pinault.
On passe à la page musicale avec Roger Muntou. Salut Roger.
Salut Morgane. Salut Gabi.
L'Afrique est pleine de tristesse de voir nos familles mourir.
Il y a plus précisément 3 semaines que l'artiste Maury Kanté nous révélait en direct dans le RM Show qu'un collectif d'artistes africains avait décidé de se mobiliser et de sensibiliser la population face au danger Ebola. Eh bien, Tikenja Fakoli aussi en fait partie. Il sera notre invité dans le RM Show demain. Écoutons Africa Stop Ebola.
Ebola, Ebola.
Madou et Mariam, Salif Keita et Mokobé apparaissent tous dans le clip Africa Stop Ebola et portent un message d'espoir.
Oui Morgane, je dois aussi ajouter que 2 versions ont été enregistrées, hein, une entièrement en français et l'autre avec des langues comme le Malinké, le Lingala, le Bambara, le Soussou, pour s'assurer, d'après les artistes, hein, que le message soit entendu, quel que soit le niveau d'alphabétisation et d'éducation de la population. La chanson est distribuée aux stations de radio à travers toute l'Afrique, Morgane.
Collectif d'artistes africains, Africa Stop Ebola. Merci Roger.
C'est moi qui vous remercie, Morgane.
Roger Muntou que vous retrouvez tous les soirs à 20h temps universel dans le RM Show.
Ebola, ce n'est pas bon. Allez voir le médecin. Ebola fait du mal. Il faut voir le docteur. Ebola, ce n'est pas bon. Allez voir le médecin.
Ebola.
s'achève cette édition du Monde aujourd'hui, mise en onde par Joselle Morissin avec l'assistance technique de John Dryden à la console technique.
Merci à toute la rédaction, au micro Morgane Guiriec.
Et chez Romain Dorcil, restez branchés dans quelques instants. Un spécial Burkina Faso, une émission interactive présentée par Nicolas Pinot.
Qui s'y passe, Yabana ya elle.